Notre religion chrétienne est fondée sur cette double parole qu'on appelle le sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dit de différentes manières dans nos évangiles, et c'est la base de notre foi, l'amour. On aime bien ça, l'amour, on est pour, enfin c'est très agréable et tout le monde aime beaucoup la question de l'amour, mais ce n'est pas si simple parce que ce double commandement pose pas mal de problèmes. D'abord, qu'est-ce que l'on entend par aimer? Ensuite, qui est ce prochain que je dois aimer? Et enfin, comment je dois aimer? Et puis, est-ce que vraiment cela vous semble évident que l'on puisse utiliser le même mot pour aimer son prochain et pour aimer Dieu? Est-ce que l'on aime Dieu comme on aime son ennemi? Enfin, tout ça n'est pas très évident. Donc, j'ai voulu repenser un peu tout cela. D'abord, que veut dire aimer dans la Bible? Et là, je suis désolé de vous décevoir, j'ai étudié dans l'Ancien Testament tous les usages du mot « ahav » qui veut dire « aimer ». Et en fait, c'est un grand fouillis. Aimer dans l'Ancien Testament, ce mot qui veut dire « aimer », est utilisé pour désigner l'amour humain, pour désigner le fait d'aimer quelque chose. J'aime les épinards, on va mettre le même mot pour l'affection que l'on peut avoir, voire même l'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. Et donc c'est assez flou, pourrais-je dire. Alors est-ce qu'il s'agit d'un sentiment? Eh bien parfois oui, mais en fait pas tant que ça. Dans l'hébreu, il y a un autre mot pour désigner l'amour affectif, on utilise le mot des entrailles, c'est-à-dire que vraiment on a un amour au fond de soi-même, au fond du ventre, qui nous attache pour quelqu'un comme la mère aime son enfant. Pour ça, il y a un autre mot, en hébreu c'est racham, et c'est traduit en général en français par le mot miséricorde. Alors dans le Nouveau Testament, dans la prédication de Jésus, qu'est-ce qu'il entend par le fait d'aimer? Là, je crois qu'il ne s'agit évidemment pas d'un sentiment. Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais il s'agit dans le langage du Nouveau Testament de quelque chose qui est plus de l'ordre d'une démarche, même de la volonté, dirais-je, donc pas du sentiment. La preuve, c'est qu'on ne peut pas, quand il dit qu'il faut aimer son ennemi, on ne peut pas se forcer à trouver sympathique quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça, on ne peut rien y faire. Il y a des gens que j'aime, des gens que je n'aime pas. Je ne peux pas me forcer à aimer quelqu'un. Et même quand on dit qu'il faut aimer Dieu, on ne peut pas se forcer à avoir la foi. Celui qui est totalement indifférent à la chose spirituelle, comment pourrais-je lui dire d'aimer Dieu? Il dit, mais Dieu, je ne l'aime pas, je ne sais pas qui c'est, je ne comprends pas. Et donc on voit bien que l'amour dont il est question dans l'Évangile n'est en tout cas pas le sentiment d'affection ou de tendresse que l'on peut avoir pour quelqu'un. Mais on pourrait dire que l'amour dont il est question dans le Nouveau Testament, c'est plutôt la préoccupation de l'autre, le souci de l'autre. C'est de vouloir du bien à l'autre, d'essayer de le comprendre, de se mettre à sa place, de s'approcher, de s'ouvrir à l'autre. Et donc c'est toute une démarche qui consiste à vouloir du bien de l'autre, enlever les obstacles entre soi et l'autre, d'être capable de donner et de recevoir, et finalement d'avoir une sorte d'attention à l'autre comme une personne précieuse. Ce que je peux faire même pour mon ennemi. Enfin, donc c'est une démarche volontaire, je dirais, dont il s'agit là. Alors admettons qu'il faille aimer, mais qu'il faille aimer son prochain. Mais du coup, qui est mon prochain? La question est posée dans l'évangile de Luc et Jésus y répond par la parabole du bon samaritain où il étend plutôt un peu les choses par rapport à l'usage de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prochain qu'il faut aimer, c'est assez simple, c'est celui, c'est comme on dirait aujourd'hui en français, c'est mon proche, c'est-à-dire celui de ma famille, de ma religion, de ma tribu. L'étranger, ce n'est pas un prochain, c'est un lointain. Et donc le prochain, c'est celui qui est de ma famille, autrement dit. Bon. Et dans la parabole du bon samaritain, Jésus étend la chose en montrant que pour celui qui est blessé, le Samaritain, qui est donc son ennemi héréditaire, le Samaritain qui vient l'aider, peut devenir son prochain. Et donc ce n'est plus simplement celui qui est, je dirais, biologiquement ou génétiquement mon proche, mais c'est celui qui vient vers moi, celui qui s'approche de moi, il est mon prochain. C'est absolument révolutionnaire et ça change complètement l'ordre des choses, et en particulier ça bouleverse ce qu'avait dit une fois un homme politique que je ne nommerai pas et qui, pour essayer de justifier une forme de xénophobie, disait, comme tout le monde, j'aime mon frère plus que mon cousin plus que mon voisin plus que mon compatriote, et mon compatriote plus que l'étranger. Donc ça, c'est effectivement une hiérarchie dans l'amour que Jésus, en tout cas, détruit entièrement en disant ce n'est pas une question de sang, mais l'étranger qui est venu vers moi ou dont je me suis rendu proche, qui s'est rendu proche, peut d'une certaine manière être autant mon prochain que mon cousin avec qui je n'ai aucune interaction ou que mon compatriote qui se fiche de moi. Alors admettons que mon prochain, ce soit celui avec qui je sois proche, voire, comme le bon samaritain, celui qui est venu vers moi pour me sauver. Mais ce n'est quand même pas n'importe qui. On le voit bien. Pourtant, Jésus a quand même dit aussi « Aimez vos ennemis ». Alors là, c'est encore compliqué parce que l'ennemi, il ne s'est pas approché de moi pour me faire du bien, comme le bon samaritain. Alors je dois élargir encore ma notion de prochain en disant le prochain que je dois aimer, c'est pas simplement celui qui est venu vers moi pour m'apporter quelque chose, mais ça peut être aussi mon ennemi. Autrement dit, c'est celui qui s'est rendu proche, celui qui a interagi avec moi, celui qui s'est trouvé sur mon chemin. Et autrement dit, je pense que le prochain à aimer, même dans l'Évangile, ce n'est pas tout le monde. Et ça, c'est important parce que à force de prétendre vouloir aimer tout le monde, on n'aime plus personne, si vous voulez. Si je dis j'aime tout le monde, j'aime même ceux que je n'ai jamais vus, j'aime le petit chinois à l'autre bout de la terre, je n'ai même pas son nom, mais je l'aime. À ce moment-là, aimer ne veut plus rien dire. On ne peut pas aimer tout le monde. Ce n'est pas possible. Et en fait, prétendre vouloir aimer tout le monde dévalorise même le mot aimer. Alors certes, il faut être solidaire avec des peuples qui sont en difficulté, je ne dis pas le contraire, mais la solidarité n'est pas directement l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort que ça, je crois. Alors donc, je disais, le prochain à aimer, c'est celui qui est sur ma route, celui qui se rend proche, celui qui interagit avec moi, que ce soit positivement ou négativement, dès que quelqu'un est là, il est mon prochain. Et donc voilà ce que nous donne l'Évangile, c'est peut-être une sorte de mode d'emploi de la relation avec ceux avec qui je suis justement en lien. Et dès que je suis en relation avec quelqu'un, j'ai une attitude à avoir. Alors comment dois-je ou puis-je aimer mon prochain ? Je crois que la clé de ça, elle se trouve dans le commandement qu'il donne en disant « Tu aimeras ton prochain » comme toi-même. Alors le comme toi-même, en général, il est souvent interprété comme en disant comme je m'aime moi-même. Évidemment que vous comprendrez que cela n'est pas juste, parce que d'abord, je ne suis pas sûr de bien m'aimer moi-même. Et est-ce que celui qui se déteste lui-même aurait le droit de haïr et de violenter tous ceux autour de lui sous prétexte qu'il ne s'aime pas lui-même ? Ça ne va pas. Donc il ne s'agit pas d'aimer son prochain autant que soi-même. Il s'agit d'autre chose. Je crois que la clé, il y a plusieurs façons de le dire. D'abord, on peut dire qu'il faut aimer son prochain comme un autre soi-même. C'est-à-dire que dans la relation, il y a moi et il y a l'autre. Et d'arriver à comprendre que l'autre est aussi un sujet. Et il a le droit aussi de dire « moi ». Ça, c'est pas simple. Parce que la tendance naturelle, c'est de voir l'autre comme un objet. Soit un objet de haine, soit un objet d'amour, et même dans l'entraide, quand on rencontre un SDF dans la rue et qu'on lui jette une obole, le SDF dans la rue n'est pas une personne, c'est un objet. on lui jette une pièce comme on jetterait une pièce dans un distributeur, comme on envoie son chèque à Médecins du Monde, on ne sait pas à qui, mais ce n'est pas grave. Et donc l'autre est un objet qui reçoit quelque chose. Ou c'est encore là le faux ami du mot « amour », quand dans les mariages, les gens disent « Ah, on va lire 1 Corinthiens 13 en disant que le plus important, c'est l'amour. » Les jeunes mariés choisissent ça en se disant « Ben oui, parce qu'on est amoureux, donc ça parle de l'amour, c'est merveilleux. » Mais non, ça n'a rien à voir. L'amour adolescent n'est pas une véritable attention à l'autre. L'amour adolescent prend l'autre comme un projecteur, comme un écran sur lequel on projette ses désirs, et il n'est que quelqu'un dont on se sert pour se faire plaisir. Et donc il y a tout un travail, depuis l'amour qui permet la rencontre dans un couple par exemple, jusqu'à construire un autre type d'amour qui est non pas de profiter de l'autre pour se faire plaisir, mais de se dire l'autre, je l'accueille comme il est, je le reçois comme une personne, cette personne n'est pas moi et n'est même pas semblable à la projection de mon propre désir, mais je l'accueille comme un autre moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme un autre sujet qui peut dire je, qui n'est pas moi, mais j'essaye de comprendre qu'il est quelqu'un et de respecter cette personne, voire même peut-être de me mettre à sa place. Donc l'autre a le droit d'exister, l'autre a le droit de penser différemment de moi, il a le droit de dire je par rapport à mon propre je et que ce je ne soit pas le mien. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça précisément, je crois, l'amour qui consiste à s'ouvrir à l'autre et à recevoir l'autre. Alors après, évidemment que s'ouvrir à l'autre, c'est a priori, l'amour est une chose positive, donc c'est plutôt pour lui vouloir du bien. Bon, et par conséquent, quand on dit qu'il faut aimer son ennemi, cela veut dire non pas le trouver sympathique, mais c'est de dire, j'essaye d'abord de comprendre, de me mettre à sa place, de comprendre son point de vue, ce qui n'est pas évident, mais vous voyez qu'on est très loin du sentiment là, hein, on est dans la démarche. Et puis par ailleurs, j'essaye de réagir non pas par rapport à moi, mais par rapport à l'autre. Et donc celui qui est là en face de moi, que je n'aime pas ou qui me fait du tort, comment puis-je faire en sorte qu'il comprenne quelque chose ou comment puis-je faire en sorte que lui-même avance ou qu'il ne recommence pas. Autre solution sur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », autre solution à laquelle j'ai pensé, que je vous propose, et qui est, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a jamais évoqué, c'est peut-être une originalité, c'est ce « comme ». Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur le « Notre Père », et j'ai trouvé qu'il y avait la même expression là que dans cette demande du « Notre Père » où l'on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ce « comme », vous pourrez acheter mon livre qui est absolument pas cher pour tout le contenu qui est dedans sur le Notre Père, vous aurez un contenu détaillé à ce sujet. J'explique qu'il ne s'agit pas de demander à Dieu de nous pardonner dans la mesure où nous aurions su pardonner, mais c'est de dire que les deux mouvements sont ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous devons pardonner aux autres. C'est-à-dire que le pardon est une démarche globale et qu'on ne peut pas demander à Dieu de nous pardonner et que nous ne pardonnions pas, et que le pardon, c'est une logique de vie. Et donc, si je demande à être pardonné, je pardonne. On ne peut pas avoir qu'un seul aspect, prétendre pardonner sans être pardonné ou prétendre être pardonné sans pardonner, ça ne va pas. Et donc, les deux sont absolument lié et indissociable. Et du coup, l'idée, c'est que aime ton prochain comme toi-même, cela veut dire qu'en fait, on ne peut pas dissocier le fait d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Voilà. Et ça, c'est assez vrai, je crois. Parce que celui qui se déteste lui-même, finalement, il est triste, mauvaise humeur, désagréable avec tout le monde, enfin, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même aura toujours du mal à être à l'aise avec les autres. Enfin, je le crois, c'est très compliqué. Pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Il faut être... Quelqu'un d'heureux peut rendre heureux, mais quelqu'un de fondamentalement malheureux aura toujours du mal à rendre les autres heureux. Et donc, il y a un double travail d'accepter de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et ça, c'est, je crois, assez important. C'est vrai aussi sur la question de la culpabilité. Celui qui se sent coupable aura toujours du mal à être à l'aise aussi avec les autres. Les gens coupables sont des gens, en général, pénibles. Et donc, quand on se sent aimé, quand on se sait pardonné, qu'on est joyeux, libéré, on a une disponibilité totale pour aimer et pour donner de la joie et pour pardonner. Ça, c'est de l'importance, vous savez, du geste fondamental dans nos rites chrétiens du baptême des enfants. Quand on prend un bébé qui vient de naître et on dit « Écoute, mon lapin, la chose la plus essentielle dans ta vie, ce sur quoi il va pouvoir construire toute sa vie, une vie positive, créative, bonne pour le monde, c'est que tu saches que tu es aimé. » Voilà. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est le signe d'un amour inconditionnel. Premier, tu es aimé. Alors, baptisez vos enfants, vos petits-enfants, et rappelez-leur à vos enfants et petits-enfants que ce baptême leur dit une chose fondamentale, c'est que ils sont aimés, point. Et que le seul moyen de construire sa vie, c'est de la construire sur un amour premier. Je suis aimé, je suis en confort avec moi-même, j'ai le droit d'exister, je suis heureux, je suis bien, et donc je peux aimer. Voilà. Alors ça, c'est vrai, et je pense que, si vous voulez, l'amour est une logique de vie. C'est une logique d'existence. C'est un même mouvement d'aimer l'autre, d'aimer son prochain, d'aimer sa vie, d'accepter ce qui nous arrive, de s'accepter soi-même, d'accepter tout ce qui nous arrive dans la vie, d'accepter le monde, d'accepter l'autre, d'accepter même mon ennemi, d'accepter même les contrariétés et d'aimer autour de soi. C'est une logique d'existence à laquelle l'Évangile nous appelle et qui est absolument essentielle, d'accueillir, de recevoir, d'adopter, d'être capable effectivement de construire toute sa vie sur le fait qu'on est aimé et que l'on aime. Alors cela est bien, mais admettons que l'on puisse ainsi aimer son prochain, apprendre à s'aimer soi-même, mais en même temps, quel est le lien avec ce deuxième commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force? Le fait de lier ces deux commandements, de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, c'est une trouvaille du Christ. Vous savez que le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, se trouve effectivement dans l'Ancien Testament. Le deuxième, d'aimer Dieu de tout son cœur, etc., s'y trouve aussi, mais ils sont dans deux livres différents de l'Ancien Testament. Dans deux livres différents. Et Jésus a eu l'originalité de les coller ensemble. Les deux commandements, et il dit même dans Matthieu, voici le second commandement qui lui est semblable. Il dit que c'est le même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ça c'est assez curieux et discutable parce que je vous disais au départ, est-ce que vraiment on peut penser qu'on aime que l'amour de Dieu est de même nature que l'amour de mon prochain? Est-ce que aimer Dieu, j'aime Dieu de la même manière que j'aime mon ennemi? Vous voyez, c'est compliqué d'utiliser le même mot pour deux démarches aussi différentes. Donc ça demande un travail. Ces deux commandements qui sont dits semblables, alors là aussi on peut l'entendre différemment. La première manière, je dirais pour moi, c'est de dire qu'ils sont interchangeables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu tout ton cœur. Ces deux commandements sont les mêmes, c'est ce que dit Jésus. Et donc, vous avez le choix. Si vous aimez Dieu, parfait. Si vous n'êtes pas un grand croyant, aimez votre prochain. Ça revient au même. C'est la même chose. Donc, vous avez le choix. Et certains, en effet, sont spirituels. D'autres ne le sont pas. Et j'admets que l'on puisse lire l'Évangile comme une sorte de traité humaniste. Il y a moyen de le faire. L'Évangile, c'est un vrai programme d'humanité, de relation à l'autre, d'engagement dans la société. Et je ne veux pas dire qu'il est interdit ou impossible de lire les choses comme ça. En tout cas, premier commandement, tu aimeras Dieu tout ton cœur. Le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait même dire d'ailleurs que ça va dans le même sens, la conclusion de l'évangile de Matthieu, le jugement des nations en Matthieu 25, où on a l'impression que Jésus, à la fin, dit « Écoutez, je vais vous résumer l'affaire en gros. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens disent, mais on ne te connaît même pas. Dès que vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, vous êtes sauvé. Et donc Jésus finalement dit, écoutez, l'essentiel de l'évangile, après tout, c'est d'aimer son prochain. Voilà. Pourquoi pas ? Mais on peut aller un peu plus loin quand même, et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est de dire que finalement, les deux commandements du prochain et de Dieu se complètent. Et voir le deuxième, enfin, le commandement de l'amour de Dieu corrige le commandement de l'amour du prochain. Parce que tout à l'heure, j'ai été très enflammé et motivé en disant, pour aimer son prochain, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et oui, mais s'aimer soi-même, c'est une bonne idée, mais si vous vous considérez comme le phénix des hôtes de ces bois et comme le centre du monde, votre attitude dans le monde va être assez compliquée. Et donc, il faut s'aimer soi-même, mais se rappeler en même temps que l'on n'est pas Dieu. Il faut s'aimer soi-même et accepter que l'on soit pardonné, mais se rappeler quand même que l'on est imparfait. Celui qui se croit parfait, celui qui se croit le centre de tout, celui qui s'auto-adore, sera aussi tout aussi pénible dans le monde que celui qui se sent coupable et minable. Et donc, il y a un ajustement à faire. Par conséquent, il faut aimer son prochain comme soi-même et en même temps se rappeler que l'on n'est pas Dieu, c'est-à-dire que l'on n'est pas le centre du monde, ni la perfection incarnée. Sur ce point, d'ailleurs, Jésus a oublié quelque chose dans le texte du Lévitique. Quand il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le verset se continue, c'est Dieu qui parle et qui dit « Je suis l'Éternel ». Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'accord, mais je suis l'Éternel, c'est-à-dire que tu n'es pas Dieu. Ça me semble absolument essentiel. Après, on peut dire aussi que ces deux commandements d'aimer Dieu et son prochain sont, dans le fond, indissociables. Pour la raison que je viens dire et pour d'autres encore. D'abord, dans le sens d'aimer Dieu implique d'aimer son prochain, évidemment. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les hommes. Et ça, on le trouve dans l'épître, le premier épître de Jean, que je vous ai lu tout à l'heure. Jean dit, celui qui n'aime pas les hommes qu'il voit, comment aimerait-il Dieu qu'on ne voit pas ? Bon, je ne suis pas d'accord avec lui, je pense que c'est plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas que mon voisin qui m'embête, donc Dieu au moins il est imaginaire, c'est facile d'aimer un doudou, donc argument mauvais. Mais quand il dit que celui qui aime Dieu aime aussi les hommes, oui, évidemment, évidemment. Et je crois que là, c'est vraiment un des fonds plutôt de la prédication du Christ, de lutter contre l'hypocrisie des pharisiens qui étaient pleins de pratiques, pleins de sacrifices, pleins de prières, pleins de religiosité et qui n'avaient aucune attention pour les autres. Et Jésus dit, mais non, la religion, c'est pas d'aimer, je sais pas quoi, de faire des rites. La religion, c'est avant tout de se préoccuper du prochain, de celui qui est là. Voilà. Et là, franchement, je ne peux qu'aller dans ce sens et militer pour une religion évangélique et que notre religion se préoccupe plus de celui qui est là que de principes, que de dogmes, que de doctrines, que de morale, que de ceci, que de... Non, il faut, on est là pour aimer, pour accompagner, pour accueillir, pour donner, pour faire grandir, pour recevoir, pour consoler et pour donner de l'espérance. Et d'autre part, est-ce que aimer Dieu peut aider à aimer les hommes ? Eh bien, je le crois. Je le crois, et pourquoi ? D'abord parce que, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mon prochain n'est pas toujours aimable. Et je pense que l'humanisme non spirituel a ses limites. À un moment donné, pourquoi irais-je aimer celui qui, franchement, n'est pas aimable ? Pourquoi irais-je aider celui qui ne prend pas sa vie en main ? Pourquoi, moi, ferais-je quelque chose dans l'amour alors que je ne reçois rien en retour, je ne reçois que des coups sur la tête ? L'autre n'est pas aimable, dans le fond, ou rarement. Et donc, si j'aime l'autre, c'est par une sorte de choix qui dépasse mon prochain, parce que je crois dans l'amour et que, en fait, j'aime l'amour plus que mon prochain. Et donc l'amour devient un principe directeur. Je n'aime pas l'autre parce que j'ai envie de l'aimer, mais j'aime l'autre parce que c'est comme ça. C'est l'amour, point. Il n'y a pas de raison. C'est un choix. C'est ma foi. Voilà, je crois dans l'amour et je pense que la plus grande chose, c'est l'amour. Dieu est amour, nous dit encore l'évangile de Jean. Et croire en Dieu, c'est croire dans l'amour. Et donc j'aimerai mon prochain, même s'il n'est pas aimable, même s'il n'en vaut pas la peine, même s'il ne me rend rien, même si ça ne sert à rien. J'aimerai ou je vais tout faire pour aimer mon prochain parce que je crois dans l'amour qui est Dieu. Et voilà, c'est le pari de l'amour. Et aussi parce que, peut-être parce que ma relation à Dieu me fait du bien. Dans ma foi, ce n'est pas juste un principe idéologique, mais la foi, c'est aussi ma prière. C'est aussi que dans ma relation à Dieu, je me sens aimé. Donc même si mon prochain ne me rend pas cet amour, ce n'est pas grave, j'ai une autre source d'amour, je n'ai pas besoin de lui. Je me sens aimé par Dieu, donc je me suis nourri d'amour. Et si j'arrive dans ma relation à Dieu à me nourrir d'amour, j'arrive dans la prière à faire baisser un peu la pression quand je ressens en moi du ressentiment, du désir de vengeance, de frustration. Toute cette relation à Dieu est infiniment bienfaisante. Et franchement, permet d'enlever tout ce qui est négatif, morbide en soi, et permet de trouver peut-être une forme de paix intérieure, d'être plus en paix finalement aussi avec les autres. Donc oui, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'essayer d'aller puiser ailleurs que dans simplement mon prochain une source de vie, de paix, d'amour, d'enthousiasme, c'est absolument essentiel. Maintenant, quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais étonné par le fait que l'on puisse utiliser le même mot pour parler de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, effectivement, est-ce que vraiment l'amour de Dieu est de même nature que l'amour du prochain? Alors, j'ai dit pour le prochain que aimer son prochain, c'était s'ouvrir à lui, enlever les obstacles qu'il y a entre lui et nous, l'accueillir sans crainte et sans réserve, savoir recevoir et savoir donner. Oui, je peux dire la même chose de Dieu, peut-être, effectivement. Peut-être que aimer Dieu, c'est s'ouvrir à cette réalité qui me dépasse, essayer d'enlever les obstacles qu'il y a entre lui et moi, obstacles peut-être d'incompréhension, de dogmes enfantins mal vécus, de critiques vis-à-vis de l'Église, de choses aberrantes que l'on s'efforcerait à croire. Donc, déjà, par rapport à Dieu, enlever tous les obstacles qu'il peut y avoir entre lui et nous, l'accueillir et être capable d'être dans un lien avec Dieu sans réserve, sans crainte et sans difficulté, y être capable de recevoir de lui et de donner. C'est ça que j'avais dit dans l'amour du prochain, donner et recevoir. Dans ma relation à Dieu, d'apprendre à être capable de recevoir de lui. Ça, c'est toute la démarche spirituelle à laquelle on peut travailler. Tout le monde n'est pas aussi doué, mais on peut travailler à cela. Et aussi de savoir donner. Vous aimez Dieu? Qu'est-ce que vous lui donnez? Ça, c'est une bonne question. Après, peut-on aimer Dieu comme soi-même? Puisqu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Est-ce qu'on peut aimer Dieu comme soi-même? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas trop creusé. Vous y réfléchirez vous-même. Il y a une piste, je voudrais faire un sermon là-dessus, ça se défend. On pourrait dire finalement, Dieu, c'est le meilleur moi, le meilleur moi-même, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur en moi, effectivement. Bon, je ne sais pas, je laisse ça de côté. Quant au texte du commandement, il dit, non pas d'aimer Dieu comme soi-même, mais de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme. Quatre manières d'aimer Dieu, ça c'est intéressant. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, le cœur, aimer Dieu tout son cœur. Je comprends à peu près. Vous savez, le cœur dans la Bible n'est pas l'organe du sentiment, une fois de plus. C'est le centre décisionnel de sa vie, ce qu'il y a au fond de moi-même et à partir duquel viennent toutes mes décisions, mes convictions, mon action, ma façon d'être. Donc c'est le cœur, le cœur atomique de mon être. Et donc j'aime Dieu de tout mon cœur. Dieu, mettre Dieu dans le centre décisionnel de sa vie, le critère ultime de choix, et ça c'est plus un choix qu'un sentiment, je choisis de mettre Dieu au centre de tout ce qui m'anime, de ce que je fais, de mes choix, de mes directions, de mes options, de mes décisions. Aimer Dieu toute son âme, alors l'âme dans la vie, dans la Bible, l'âme c'est le principe vital. Les animaux aussi ont une âme, tant qu'ils sont en vie, c'est qu'il y a une âme vivante en eux. Et donc l'âme c'est la source de la vie, et quand l'âme s'en va d'un corps, le corps meurt. Et donc l'âme c'est la source de la vie. Aimer Dieu c'est le principe vital. Aimer Dieu de toute son âme, c'est de dire, chercher en Dieu la source de ce qui me fait vivre, la respiration, ce qui me maintient en vie. C'est aussi un travail à faire, soit dans la dimension mystique, soit dans la dimension plus active, de dire ce qui me maintient en vie, ben c'est d'aimer, tout simplement. Et enfin, de toute ma force, ben justement, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas juste de recevoir de lui du pardon, de la décision, de la force de vie, mais je l'aime de ma propre force, et ma force, c'est ma capacité d'action. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est aussi l'aimer dans l'action concrète. Et donc voilà, j'aime Dieu en faisant le bien tant que je peux, là où je peux. Et donc en effet, l'amour dont nous parlons n'est pas certainement pas un sentiment, d'abord c'est une logique de vie. Et l'amour, ce sont aussi des gestes d'amour. Donc tu aimeras Dieu aussi de toute ta force. Et voilà que Jésus rajoute un quatrième point. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus rajoute « Et de toute ton intelligence. » Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Enfin, pas très clairement. Et d'ailleurs, le scribe qui parle avec lui dit « Oui, oui, tu as bien raison, et c'est bien de toute ton intelligence. » Et là, on a deux mots différents. Il y a « dianoia » en grec et « synesis » qui est l'intelligence rationnelle. Et donc, il rajoute une insistance sur le fait que aimer Dieu, c'est aussi le faire avec son intelligence. Je regrette que nos traductions disent « de toute ta pensée ». Ce n'est pas juste une pensée, l'intelligence. L'intelligence aussi est absolument essentielle pour aimer Dieu. Enfin, dans tous les cas, les trois sont indissociables. D'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Et par-dessus tout, d'aimer Dieu. Ça, c'est le trépied de l'amour. Et le lien entre tout ça, eh bien, c'est l'amour. L'amour est la chose la plus positive, la plus créatrice de notre existence. Et avec Dieu, en aimant Dieu, en aimant mon prochain et en m'aimant moi-même. Et selon les moments, ça peut être plus l'un ou plus l'autre, mais en tout cas, c'est absolument essentiel. Saint Augustin a dit, vous le savez, en commentant précisément la première épître de Jean, « Aime et fais ce que tu veux. » Oui, l'amour est la base de tout. Ce qui est beau, c'est que Saint Augustin ne précise pas. Il ne dit pas « Aime Dieu et fais ce que tu veux » ou « Aime ton prochain, fais ce que tu veux, aime ton ennemi. » Aime. Et j'aime ce mot, je trouve formidable que saint Augustin ait mis juste le mot « aime », que le mot « aime » tout court, je dirais c'est le sommaire du sommaire de la loi. Finalement, tout tient dans ce seul mot « aime », c'est ça l'essentiel. Aime comme tu es aimé, c'est-à-dire sans limite. Amen.